Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rapport MIPS, donc réalisé par le CLUSIF. Donc MIPS, c'est Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France. Et donc pour discuter de ce sujet, nous recevons Lionel Mourer.
Bonjour.
Et les contributeurs Nos Limites Sécu sont Éric Fraissinet.
Bonjour.
Qui a d'ailleurs également participé à la réalisation de cette étude.
Tout à fait.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Lionel, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Oui, donc je suis donc Lionel Mourer. J'ai une double casquette. Je suis à la fois un consultant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Atexio. Et j'ai également une casquette auprès du CLUSIF en tant qu'administrateur. Ça fait près de 20 ans que j'en suis un des membres et 7 ans que j'en suis un des administrateurs. Et dans le cadre de MIPS, j'étais le responsable de l'étude globale MIPS pour l'année 2016.
Alors ce rapport MIPS, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr. Alors, le rapport MIPS, il se positionne sur trois axes. Un premier axe qui sont les entreprises de plus de 200 salariés. Un second axe qui vont être les collectivités territoriales. Et enfin, un troisième axe sur lequel on va identifier un peu les pratiques de sécurité des internautes de monsieur et madame tout le monde. Le premier axe sur les entreprises, on a interrogé cette année plus de 334 pour être précis, entreprises de plus de 200 salariés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 7800 entreprises de plus de 200 salariés, donc avec 334, on a un panel qui est effectivement très très sympathique, hein, qui est très représentatif. Au niveau des collectivités territoriales, il y en a 250 qui ont été interviewées. Et au niveau des internautes, il y en a 1009 qui ont été interviewés au travers d'un questionnaire web.
Et donc l'objectif, en fait, c'est de suivre les habitudes des entreprises, des collectivités et des internautes au fil des années ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un rapport qui est fait tous les 2 ans. Depuis maintenant, alors le rapport en lui-même existe depuis près de 20 ans au sein du CLUSIF et depuis maintenant les 5 dernières fois, il a eu lieu tous les 2 ans pour des raisons à la fois d'évolution des pratiques de sécurité. On s'est rendu compte que tous les ans ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Donc, et sur les collectivités territoriales, il y a une petite particularité, c'est que c'est tous les 4 ans puisque c'est une fois sur deux les hôpitaux et une fois sur deux les collectivités.
Et donc, qu'est-ce qui ressort de cette étude sur la partie entreprise ?
Alors, sur la partie entreprise, ce qui ressort principalement, c'est qu'on a en fait une progression qui est assez sensible, assez intéressante au niveau des RSSI. Puisque si on remonte assez loin, c'est-à-dire en 2008 versus 2016, donc en 8 ans, on a eu une progression de presque 200% des RSSI, 181% pour être précis. Et aujourd'hui, 67% des entreprises annoncent avoir un RSSI, des entreprises de plus de 200 salariés, hein, annoncent avoir un RSSI, alors qui est... soit à temps plein, soit à temps partiel, et qui peut avoir une ou des autres activités. Ça, c'est une des premières choses qui est plutôt positive. Après, les autres choses, globalement, on s'est rendu compte qu'on avait une stagnation plutôt globale du niveau de sécurité de l'ensemble des entreprises.
Pardon.
Une stagnation de l'ensemble des entreprises sur à peu près tous les autres sujets. Alors si on les prend rapidement les uns après les autres, enfin, en tout cas les principaux, tout ce qui va être par exemple identification des données sensibles et analyse de risque, bah, ça globalement par rapport à il y a 2 ans, ça n'a pratiquement pas bougé. Et globalement la moitié des entreprises aujourd'hui n'identifient pas où sont leurs données sensibles, ne classifient pas leurs données. Et de la même façon à peu près la moitié des entreprises aujourd'hui ne formalisent pas d'analyse de risque sur tout ou partie de leur système d'information. Même sur les parties qui pourraient être identifiées comme les plus sensibles. Donc ça, c'est un premier élément. Dans les choses aussi qui montrent une certaine stagnation, c'est que le RSSI reste encore fortement rattaché à la DSI. Alors ça, on l'explique assez bien parce que la majorité des nouveaux RSSI qui sont arrivés sur les 2 années passées, ou les 4 années passées même, sont plutôt des RSSI dans les petites structures, dans les plus petites structures, les 200-500 personnes. Et ces RSSI viennent très 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 souvent du monde de la technique. De fait, ils viennent du monde de la DSI et naturellement, ils sont rattachés à la DSI. Or, on sait que le RSSI, s'il peut avoir un rôle technique, n'a pas que un rôle technique, a d'autres prérogatives. Et le fait d'être attaché à la DSI, sur certaines de ses autres prérogatives, peut poser un peu problème.
Bon, Hervé Schauer, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ?
Ah, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette étude sur les entreprises, c'est de voir à quel point la majorité des RSSI étaient encore orientés produits, techniques, produits de sécurité. Alors, ça vient peut-être du fait qu'on a beaucoup de jeunes et nouveaux RSSI. Et j'étais un peu déçu de découvrir que très très peu d'entre eux étaient orientés processus, organisation, alors que mon sentiment, c'est que ce qui fait la sécurité aujourd'hui, c'est une bonne organisation, ce sont des hommes, c'est d'aller de l'avant, de persévérer, de persuader, de sensibiliser, bref, c'est une très bonne organisation des choses. Et donc, j'avoue, un peu déçu de voir que les RSSI s'orientaient principalement sur les produits et les technologies. Enfin, ça plaira certainement à certains éditeurs.
Mais Hervé, tu penses pas que justement un bon niveau de sécurité, c'est les deux, c'est des processus et des outils, parce que comment tu veux faire de la sécurité, de la cybersécurité, juste avec des hommes et sans outils ?
J'ai toujours donné leur juste valeur à tous les outils, et il y en a certains qui sont indispensables et qu'il n'y a pas besoin des RSSI pour les avoir. Mais à partir du moment où on a quelqu'un qui se dit responsable sécurité, je pense que c'est justement à lui de faire remonter le niveau vers des choses plus structurantes. Bon, après, encore une fois, l'étude montrant qu'il y a une augmentation importante du nombre de RSSI, il y a sans doute dans les réponses des RSSI jeunes. De toute façon, moi, je pense qu'il y a d'autres résultats qui m'ont surpris dans l'étude. Hein. Il y avait une question, alors Lionel n'en a pas encore parlé, mais il y avait une question sur les méthodes de gestion des risques que les gens utilisaient, pour ceux qui en utilisaient. Et par rapport à l'ensemble du public en sécurité qu'on peut voir, les réponses ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'on trouve sur le terrain. Et je pense que ce sont là aussi des réponses qui montrent que énormément de gens qui ont répondu sont des gens qui démarrent dans le métier de la sécurité.
Nicolas Ruff, ton sentiment ?
Bon, moi, j'ai pas été à la présentation du Clusif et j'ai juste les slides qui sont publiés sur Internet. Mais en fait, je suis venu parce que j'avais cru comprendre que la sécurité était un échec. Alors, je suis rentré, quoi. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre de cette étude, c'est qu'il y avait une stagnation. Moi, le mot a été prononcé, c'est-à-dire qu'en gros, les gens ont plus vraiment d'idées nouvelles. Ils continuent à faire la même chose. Alors, effectivement, les produits changent peut-être de logo, ils changent de couleur, ils sont rachetés par les uns et par les autres. Mais il n'y a pas de RSSI qui fait de la disruption aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Peut-être que je me trompe, mais...
La stagnation, elle est surtout dans les budgets. Elle est surtout dans les budgets. C'est-à-dire, ce qui est très décevant, c'est que les gens ont plutôt des moyens qui sont en baisse, parce que dans une période économique difficile, le budget sécurité est pas un must-have, c'est un nice-to-have, et donc c'est le budget parmi ceux les plus faciles à réduire.
Et si on parle un peu du budget, hein, effectivement, hein, c'est une des questions qui a été posée dans l'étude, hein, on se rend compte que globalement, les budgets sont très stagnants et la part des budgets qui sont en augmentation plus ou moins forte ou en régression plus ou moins forte reste très très faible. Hein. La très très grande majorité des budgets sécurité est stagnante. Tout en sachant que quand on pose la question aux RSSI qui sont interrogés sur la question sur les budgets, il y en a une grande quantité, plus de 50%, qui nous disent qu'en fait, ils savent pas de quoi ils font leur budget. Donc là aussi, ça pose question. C'est-à-dire qu'effectivement, le RSSI qui n'a pas une visibilité sur qu'est-ce qu'il a dans son budget, c'est déjà un premier pas vers la difficulté de mettre en place un niveau de sécurité adéquat au sein de son entreprise si je ne sais pas ce que je peux dépenser, quoi.
Mais apparemment, dans les freins à la sécurité, le point numéro un qui ressort dans les slides, alors peut-être que je me trompe, mais c'est la difficulté à trouver les bonnes compétences, à recruter en gros.
Tout à fait.
J'ai mal compris ou... Parce que...
Non, il y a en fait à la fois la difficulté à recruter, à avoir les bonnes compétences, effectivement, et puis une difficulté également qui reste présente hein, depuis déjà très longtemps dans nos études, dans l'étude MIPS, une difficulté liée au coût, aux aspects financiers. C'est-à-dire que là, je rejoins un peu ce que disait Hervé tout à l'heure, hein, la sécurité est souvent vue un peu comme une cinquième roue du carrosse, donc on l'a au cas où il y en a une des quatre qui crèvent, ça peut toujours servir, mais c'est pas, j'ai utilisé le terme, c'est pas dans l'ADN des organisations aujourd'hui, je pense que c'est assez vrai, il y a encore un peu de travail de ce côté-là à faire. Donc oui, on manque de ressources, je pense qu'on en est tous convaincus, toutes les personnes qui travaillent dans la sécurité savent qu'aujourd'hui les ressources sont difficiles à trouver, que les formations sur ces sujets de sécurité sont pas forcément aussi développées qu'on pourrait l'espérer, et puis qu'un petit jeune qui sort d'école, même s'il a eu une bonne formation...
Ouais, enfin c'est pas du tout un problème de formation, hein, c'est un problème de motivation, parce qu'il y a toutes les formations qu'on veut dans tous les sens, hein, initiale, continue, tout ce que tu veux.
Mais si,
il y en a 10 fois trop, arrête. Il y a simplement des gens qui font de la sécurité pour faire du pognon et qui font pas de la sécurité parce que ça les intéresse. Et ça marche pas, ça. Donc, non, on confond les sujets, là.
Ouais, mais c'est vrai de tous les métiers. Le constat, c'est que t'as quand même beaucoup de gens qui ont pas forcément toute la formation qu'il faudrait. Qui ont juste une formation de base qui n'est pas suffisante et qui apporte pas toute la richesse des aspects qu'il faudrait couvrir pour être un RSSI complet.
Bon, c'est un autre sujet, on en discutera une autre fois.
Bah, peut-être sur un prochain podcast.
Moi, je suis intéressé aussi pour en discuter. Je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Hervé, mais bon, effectivement, c'est un sujet, enfin, on en parle quand même dans l'étude, hein, mais c'est un sujet connexe.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres points marquants dans cette étude, Lionel, en ce qui concerne les entreprises ?
Oui. Oui, bien sûr. Alors, d'autres points marquants. Donc, les missions du RSSI, on en a parlé, effectivement, aujourd'hui, le RSSI est très orienté opérationnel et technique, donc ça, je reviens pas dessus. Un point aussi intéressant qu'on a relevé, c'est que lorsque les entreprises ont formalisé une politique de sécurité de l'information, le RSSI n'intervient dans la formalisation de cette politique qu'à 38% des cas, alors que la DSI y intervient à 63% des cas. Donc là aussi, on pourrait s'attendre à ce que la PSSI, ça reste quand même le précaré du RSSI, et c'est pas complètement le cas. Voilà. Alors bien sûr, la DSI a son mot à dire dans une PSSI, hein, mais c'est quand même elle qui est leader avant même le RSSI.
Et ça, c'est pas dû au positionnement en fait du RSSI majoritairement par rapport à l'étude, parce que s'il est souvent sous la coupe de la DSI, c'est un peu logique.
Et comment est-ce qu'il faut le comprendre ? Est-ce que c'est le RSSI qui définit et la DSI qui applique
Non, là, c'est vraiment la formalisation de la politique. Hein. Donc, c'est vraiment l'écriture de la politique de sécurité où, effectivement, on va définir les bonnes règles d'usage liées à la sécurité de l'information, les droits et les devoirs au sens du système d'information. Hein. C'est pas une charte au sens des utilisateurs, hein, mais bien une politique au sens de l'organisation. Et effectivement, alors, comme le dit Sébastien, c'est vrai aussi que le fait que le RSSI soit encore fortement rattaché à la DSI, ben oui, c'est pas complètement étonnant que du coup la DSI soit lourdement impliquée, mais on pourrait s'attendre à ce que ce soit moins le cas.
Mais vous savez, il y a énormément de structures dans lesquelles le RSSI, c'est le DSI. Enfin, moi, je peux vous dire que dans les structures de taille intermédiaire ou de petite taille, plutôt que d'avoir un ingénieur système, un ingénieur sécurité réseau à qui on colle l'étiquette RSSI, le DSI dit « je suis DSI et RSSI ». Tu vas trouver ça dans plein de structures de santé, dans plein de PME, de sociétés de taille intermédiaire, etc. Donc c'est un grand classique. Comme RSSI implique un minimum de responsabilité, ça n'est pas quelqu'un sbire du DSI qui prend la responsabilité, c'est le DSI lui-même. Donc dans ce cadre-là, le DSI mélangeant les deux fonctions, moi je comprends qu'on ait l'impression qu'il y ait beaucoup de DSI qui formalisent la politique de sécurité.
Alors les chiffres reflètent pas tout à fait ça, parce que la DSI, elle est très impliquée à tous les niveaux, hein, y compris dans les grandes structures, en fait. Quand on regarde les chiffres, puisqu'on a aussi dans notre étude un certain nombre de chiffres sur la base des quantités de personnes, hein, de 200 à 500, de 500 à 1000 et de plus de 1000, le chiffre est quasiment identique. Il doit y avoir 3 points d'écart entre les entreprises de 200 à 500 et celles de plus de 1000 quant à l'implication de la DSI.
Alors, ce qui se passe, c'est que dans les grandes structures, les gens appellent politique le document qui va contenir les règles que l'on applique sur les systèmes d'information. C'est l'ambiguïté du mot politique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont interpréter politique au sens application vis-à-vis de la sécurité, de l'information, de la stratégie, des orientations de la direction, des objectifs de la direction. Et puis, il y en a d'autres qui parlent de la déclinaison des objectifs de la direction en quelque chose de beaucoup plus pratique, concret, détaillé, de règles de sécurité à respecter. Alors évidemment, les règles de sécurité à respecter sur l'informatique, bon, c'est nécessairement quelque chose qui est fait avec la DSI. Mais là, il y a pour moi une confusion entre la politique de haut niveau et la politique technique, entre la politique au sens maîtrise d'ouvrage, direction des risques, direction générale, et puis la politique avec les mesures de sécurité concrètes à la DSI.
Et je vois que 47% des entreprises n'ont pas classifié leurs données. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bon, c'est normal, c'est beaucoup trop dur à faire. Donc moi, ce qui m'étonne et ce qui me surprend, c'est qu'il y en ait autant qui disent qu'elles les ont classifiées. Parce que moi, chez mes clients, il n'y en a pas autant. Hein.
Ouais, mais est-ce que c'est en moyenne un problème complexe ? C'est-à-dire, est-ce que dans beaucoup d'entreprises, c'est pas très simple la classification des données ?
Non, je pense pas. Non, mais est-ce que tu sais pas où sont tes données pour commencer ?
Tout le monde les met pas dans le cloud, Nico.
Non, mais une donnée, c'est quoi ? Je veux dire, t'as un document Word qui est sur un SharePoint que tu stockes dans une base SQL derrière, que tu t'envoies par email. Donc en fait, l'administrateur Exchange, l'administrateur base de données.
Oui, mais ça changerait un problème de la classif, ça.
Moi, je pense que par rapport à la classif, c'est pas si facile que ça. Hein. Je suis assez d'accord avec Hervé. Hein. On voit bien que les gens ont du mal.
Clairement, hein, une classification, oui, c'est pas facile. Pour autant, même dans les petites structures, on peut s'y intéresser. On fait aussi une différence entre classifier 100% de ces données, et ça, il n'y a à peu près aucune entreprise qui sait le faire aujourd'hui, et au moins s'intéresser aux données les plus sensibles. Et on voit quand même que quand on dit 50% ne le font pas, c'est en tout ou partie. Hein, les 50% qu'ils font, il y en a un tout petit pourcentage, moins de 10%, qui affiche le fait de le faire de façon globale. Et même celle-là, donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment, vraiment global ? Mais bon, elles le disent. Et il y en a une quarantaine de pourcents qui disent qu'elles le font en partie. Et il y en a la moitié qui disent on fait rien. Donc je suis d'accord que classifier les données, c'est loin d'être évident. C'est un vrai travail sur lequel il faut prendre un peu de recul et un peu de temps et réfléchir un peu au modèle.
Alors d'autres points, ce qui concerne les entreprises ?
Alors oui, effectivement, on peut parler de sensibilisation, hein, qui est typiquement un des sujets importants pour un RSSI, hein, de sensibiliser l'ensemble du personnel à la problématique sécurité. On a vu entre 2014 et 2016 une chute assez sensible de la sensibilisation des VIP, des directions générales, hein, principalement. En 2014, en fait, on avait l'effet Prism, hein, l'effet Edward Snowden, hein, qui avait fortement fait évoluer cette sensibilisation VIP, puisqu'on était arrivé à 31% des directions générales sensibilisées. Et en 2016, on affiche 20%, donc une chute assez sensible. On a perdu 11 points sur cette sensibilisation. Et puis, on voit tout doucement arriver les serious games spécialisés, orientés sur la sécurité de l'information, puisqu'aujourd'hui 2% des entreprises nous disent utiliser des serious games pour sensibiliser leur personnel.
Sur la partie BIOD ?
Alors effectivement, le BIOD, on voit une continuité du recul. Il y a 4 ans, près de 70% autorisaient l'usage des tablettes, des smartphones, des PC personnels, hein, en mode BIOD. Et effectivement, depuis 4 ans, on a une baisse sensible, puisqu'aujourd'hui, elles ne sont plus que 29 à l'autoriser sous condition et 68 à l'interdire. Donc il y a vraiment eu une évolution forte. On a quasiment divisé par deux le ratio d'usage du Bayeud au sein des entreprises. Donc ça, on imagine que c'est très lié à la reprise en main un peu des DSI, du fait de la difficulté de, d'une part, de sécuriser les outils personnels des différents salariés, hein, des différents collaborateurs, mais également à des problèmes juridiques, puisque ça pose un problème juridique d'aller mettre un mot de passe sur un, par exemple, sur un smartphone personnel. En tout cas, ça doit être traité au niveau RH, et c'est pas forcément si simple que ça.
Alors, un point qui va intéresser Sébastien Juria, la partie SDLC.
Enfin, sécurité dans les développements, en fait, ce que veut dire Johan, qui n'a pas relevé que la courbe du Bayeud s'était inversée.
Oui, bien sûr, on peut en parler. La sécurité dans les développements, la sécurité dans
est
les développements...
Est un échec, a priori.
Voilà. Effectivement, on peut laisser Sébastien préciser la chose, puisque c'est lui qui a travaillé, entre autres, sur ce sujet-là dans le cadre de l'étude. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien. Et puis,
Pas cette année, Lionel.
Pas cette année, oh, pardon. Alors, je reprends la main. Donc, il y a deux ans, on était à 24% des entreprises qui font du développement sécurisé. Et on trouvait que c'était déjà pas beaucoup. Eh bien, cette année, j'ai l'immense honneur de vous annoncer qu'on est passé à 17%. Donc, on a un recul sensible. Donc, encore moins d'entreprises ne mettent en place de la sécurité dans les développements. Et là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet. Hein, quand on voit le top 10 de l'OWASP avec les différentes failles qui sont prioritaires, qui sont les plus utilisées, on se doute bien que les développements pourraient largement améliorer la chose. Et les développements sécurisés ne sont pas à la hauteur de nos attentes, hein, très clairement.
Je note un truc quand même, c'est que les télécoms, en fait, sont toujours un peu en avance sur le sujet. Alors, je me demande si c'est pas, s'il n'y a pas un rapport avec le règlement européen sur...
Non, il y a un rapport avec la LPM.
C'est-à-dire oui,
que
c'est ça.
Tu vois que finalement, il y a quelques secteurs d'activité qui dénotent ou qui dérogent au pessimisme que l'on a eu jusqu'à maintenant dans notre discussion. Et on peut raisonnablement penser que ça correspond aux secteurs d'importance vitale qui ont la LPM dans les pattes.
Alors effectivement, je confirme. Le secteur transport télécom est celui qui, sur l'ensemble du panel et sur l'ensemble des points sur lesquels on a questionné les entreprises, a la meilleure progression. Alors pour autant, il n'est pas en tête. Hein, celui qui reste en tête, c'est la banque assurance. Mais c'est vraiment l'ALPM qui pousse les OIV. Et dans les OIV, il y en a pas mal, c'est pas que, mais pas mal qui sont dans le monde des transports ou des télécoms, et on a vraiment vu une augmentation assez sensible, une évolution assez sensible dans ce transport, dans ce secteur-là.
Un dernier point peut-être ?
Alors un dernier point, on va parler de continuité d'activité. La continuité d'activité, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise lorsque vous avez un sinistre majeur qui vous tombe sur le coin du nez? On a vu récemment encore les inondations, hein, par exemple, qui n'ont pas été à un niveau 1910, qui était plus de 2,50 m en dessous de 1910, mais déjà au niveau où elles étaient, on voit un peu les dégâts que ça peut faire. Et bien là, 30% des entreprises nous disent encore qu'elles ne font rien. Donc, encore une fois, hein, le verre à moitié plein, c'est 70% qui font des choses, et ça c'est plutôt bien, mais le verre à moitié vide, c'est 30% qui font rien, là il y a encore de quoi faire.
Bon, alors, en ce qui concerne les collectivités locales.
Alors, les collectivités territoriales, elles sont, en fait, ce qu'on peut retenir des collectivités territoriales, c'est qu'il y en a quatre grands types. Les conseils territoriaux, c'est-à-dire les conseils généraux ou les régions. Les communautés d'agglomération, les villes, et puis les communautés de communes. Et en fait, plus on va des conseils territoriaux vers les communautés de communes, donc en fait, plus on va de structures importantes vers des plus petites structures, et plus on se rend compte que la sécurité est moins bien traitée, on va dire. Ça se voit par exemple ne serait-ce que dans l'existence d'un RSSI. Les conseils territoriaux, à 40%, disposent d'un RSSI. Les communautés de communes, donc qui sont tout à fait à l'autre extrême, c'est 14%. Donc c'est quasiment trois fois moins. Voilà. Et puis les deux qui est au milieu, on est sur une pente linéaire, on va dire. Voilà, donc ça, effectivement, c'est un premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on a des communautés qui n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes dotations, n'ont pas les mêmes capacités financières, et ça se traduit directement dans les résultats de l'enquête et dans la possibilité de gérer la sécurité au mieux.
Moi, j'ai noté que dans les collectivités territoriales, sur la partie qui m'intéresse, c'est encore pire que dans les entreprises. Ça, c'est clair.
Ouais, effectivement, c'est 90% ce qui ne font
ce qui me fait un peu sécurité. Ce qui me fait un peu peur en tant que citoyen, parce que je me dis que les téléservices de l'ensemble de nos collectivités locales qui sont théoriquement RGSisées, même si elles s'appuient peut-être sur des ERP ou tout ce que l'on veut, etc., bah, ça me fait un peu peur quand même. Mais bon, c'est en tant que citoyen.
Un dernier sujet peut-être sur les collectivités. Alors globalement, on est dans un résultat assez équivalent à celui des entreprises, voire même un petit peu en dessous. Une particularité des collectivités, c'est qu'elles sont soumises au RGS, au référentiel général de sécurité. Et aujourd'hui, elles sont censées tout être conformes à ce RGS. Et quand on leur pose la question, 18% nous disent qu'elles le sont totalement et 26% en partie. Et donc ça en laisse plus de 60% 56% pour être précis, qui ne le sont pas. Donc là aussi, il y a encore un certain travail. Là, la raison première, c'est clairement une raison liée aux finances. La raison seconde, c'est une raison liée au « je ne sais même pas que le RGS existe ». Il y a encore dans des petites communautés, des petites villes, la non-connaissance de ce règlement, par exemple.
Ça fait quand même 3 ans qu'ils sont censés être, entre guillemets... au RGS, l'ensemble des communes, agglomérations, communautés de communes et tout ce que l'on veut. L'ANSSI a assez, à mon sens, fait de bruit dans les OZ et dans diverses communes pour que ça se sache. Ça fait peut-être un peu peur.
Ouais, mais comme tu sais, à chaque fois. Ouais, mais il n'y a ni carotte ni bâton.
Oui, je suis d'accord qu'il y a ni carotte et bâton.
Et à partir du moment... Enfin, moi, je connais aucune consigne de sécurité, aucun règlement qui fonctionne correctement s'il n'y a pas à la fois carotte et bâton. C'est-à-dire que j'y gagne à respecter, j'y perds à ne pas respecter. Là, il n'y a ni carotte ni bâton. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait très, très peu de téléservices qui soient homologués et conformes aujourd'hui.
Moi, ce qui me fait, enfin, il y a une réflexion que j'avais eue dans un meeting, enfin dans une réunion où il y avait l'OZ, entre autres, dans ma zone de défense. Il y a deux responsables de communes de 30 à 50 000 habitants. Alors, vous allez me dire, c'est tout petit, 30 à 50 000 habitants, qui étaient à dire la chose suivante si je suis obligé de faire une analyse BIOS plus un machin plus un bidule. Ça va me coûter à peu près 60 000 balles par an pour à chaque fois que je veux mettre des téléservices. Et ben plutôt que ça me coûte 60 000 balles par an pour des trucs que je suis obligé de refaire ou je sais pas quoi, je vais prendre une petite main qui fera l'accueil à la mairie et qui sera beaucoup mieux accueillie que les téléservices qui marchent pas bien. Alors je sais pas si les communes qui ont répondu à l'étude sont plutôt dans cette optique-là quand elles disent « je savais même pas que ça existait », mais peut-être.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour ce qui est des villes, on a été jusqu'à des villes de 30 000 habitants. Hein, donc, l'exemple que tu viens de citer, potentiellement, est dans la cible. Hein.
Alors, Eric Frécinet, la partie internaute, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Lionel l'a rappelé tout à l'heure, c'est 1008 personnes qui ont été interrogées. Représentatif de la population française. La particularité de l'étude internaute, c'est que elle s'intéresse beaucoup aux usages et à l'équipement, ce qu'on peut difficilement faire avec le questionnaire déjà très complexe pour les entreprises et les collectivités. Et donc, par exemple, on note que les particuliers utilisent beaucoup les particuliers utilisent beaucoup les équipements mobiles pour se connecter à Internet, donc leur ordinateur portable et leur smartphone, et l'ordinateur fixe passe pour la première fois à la troisième position, et ils sont de plus en plus connectés à l'extérieur du domicile, ce qui en termes de sécurité pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire qu'ils sont plus souvent connectés en réalité, hein, avec leur smartphone, et à la maison ils utilisent de plus en plus le Wi-Fi. En écho à la discussion sur le BIOD, les particuliers sont peut-être en train, dans leur relation avec leur entreprise, en train de diminuer leur usage croisé des équipements professionnels à titre personnel et personnel à titre professionnel, même si du côté des usages eux-mêmes, il y a encore quelques recouvrements dans leurs usages. Et puis toujours pour finir sur les pratiques des internautes, il n'y a pas de grosses évolutions, hein, ils font du web, du mail, etc., des réseaux sociaux. L'économie collaborative qui rentre cette année dans l'étude, hein, Uber, Blablacar, etc., arrive avec 16% en moyenne, effectivement, surtout les jeunes, qui à plus de 30% utilisent très souvent ou souvent les plateformes de l'économie collaborative. Donc quelque chose qui rentre très fort dans les pratiques.
Je comprends bien en plus ce que tu voulais dire par le BIOD. Tu veux dire que les gens, en gros, ils n'utilisent plus leur adresse professionnelle sur leur téléphone perso et qu'ils demandent simplement à ce qu'on leur écrive sur leur compte Gmail, ou ils cloisonnent de plus en plus les amis qu'ils ont au boulot, les amis qu'ils ont à la maison?
Justement, c'est pas tant dans le détail de l'usage, c'est vraiment sur l'usage de l'équipement professionnel ou personnel à des fins professionnelles ou à des fins personnelles de façon croisée. Et donc il y a une résorption de cet usage. On est passé de par exemple de 46% en moyenne à 37% en moyenne l'usage d'équipement professionnel pour une activité personnelle. Donc ça veut dire qu'ils ont des smartphones dans leur poche, etc. C'est une tendance intéressante et peut-être un début de décroisement, démélange des pratiques en matière de mélange de la vie professionnelle et de la vie personnelle sur les équipements. C'était une question assez précise sur l'usage des équipements qui était faite aux internautes, à la fois l'usage privé des équipements personnels et l'usage professionnel des équipements privés.
Oui, en fait, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire, mais effectivement, ça n'explique pas le pourquoi et l'analyse.
C'est sûrement lié on a atteint un cap en matière de possession de smartphone, notamment.
En gros, les gens, ils ont leur truc perso dans la poche avec toutes Exactement. Les applis sympas installées, et ils ont le truc du boulot où c'est tout verrouillé, machin, ils savent qu'ils sont surveillés, et du coup, ouais. Ils font tout.
Mais c'est la première fois dans l'étude qu'on voit un seuil qui est passé. Donc ça bascule de l'autre côté, en fait.
Oui, donc en fait, l'entreprise a tout perdu, puisqu'elle contrôle, elle surveille plus rien, puisque les gens font tout avec le perso.
C'est une façon de voir.
Ah bah c'est ce que je constate, hein, avec plaisir, hein, au demeurant, parce que je l'avais anticipé depuis longtemps, mais...
C'est une façon de voir, en tout cas ça doit faire partie de la façon dont on prend en compte les usages des employés, effectivement, et donc faut faire attention à ça, et donc ça veut dire que c'est aussi important de former les employés, parce que peut-être que ils vont répéter certaines mauvaises pratiques ou échanger des fichiers pendant les horaires de travail, oui.
Déjà, ils vont synchroniser les carnets d'adresses entre les appareils, parce que sinon, c'est pas très pratique. Donc, ils vont exporter une base de données professionnelle sur l'appareil personnel. Il faut dire que si tu leur dis, faites du personnel sur le professionnel, tu sais plus où est la limite, puisque tout équipement connecté au réseau d'entreprise est supposé professionnel. Si le mec, il a son cardio machin mètre, ou enfin tous ses appareils connectés de santé connectés sur son téléphone professionnel, le cardio truc mûche, il devient professionnel. Enfin, c'est en fait, est-ce que finalement on n'atteint pas la limite du privé professionnel? C'est C'est un peu ce que révèle l'étude, c'est que il y a un basculement. Est-ce que dans 2 ans, les gens ils comprendront plus rien entre la différence entre le personnel et le professionnel?
Je pense qu'ils commencent à faire la séparation justement, et donc peut-être qu'il faut qu'on accompagne ça, parce qu'ils ont leurs propres équipes. Hein.
Ce que veut dire Hervé, c'est que les gens n'utilisent plus les ressources de l'entreprise, quoi, en gros. Ils font tout avec leurs trucs perso, leurs adresses perso. Dès qu'ils doivent interagir avec l'extérieur, ils mettent tout dans le cloud et autres. Et que quand tu reçois une carte de visite dans un salon, est-ce que tu vas la taper dans tes contacts pro ou est-ce que tu vas la taper dans tes contacts perso?
Dans ce sens-là, c'est stable et c'est en baisse légère pour les CSP+. L'usage d'équipement personnel pour une activité professionnelle. Donc, il n'y a pas exactement ce que dit Hervé. Mais bon. C'est plutôt en baisse.
C'est parce qu'Hervé a trop anticipé, il a plusieurs...
Non, c'est à suivre.
Mais c'est aussi, il faut voir aussi par rapport à l'âge. C'est-à-dire que si on regarde dans les tranches d'âge, le comportement plus de 50 ans, 40, 50 ans, 30, 40 ou moins de 30, ce serait intéressant puisque c'est ce qui va nous permettre d'anticiper les comportements à venir.
Ce comportement, on le retrouve dans ce qu'on a vu côté entreprise. Le buy-out diminue fortement. Donc effectivement, les usages, donc finalement, ces deux parties-là, elles se recoupent. Les entreprises nous disent on ferme le buy-out et les internautes particuliers, les particuliers internautes nous disent on utilise moins nos outils pro pour une activité perso. Donc ça va bien dans le même sens.
Alors, juste pour répondre à ce que disait Hervé, dans le sens équipement personnel pour traiter des données liées à l'activité professionnelle, les 15-29 ans sont à plus de 51%, 51,6%, à partir de 30-40 ans, ça diminue assez nettement, ça passe à 39, 34, 35%. Dans les usages. Et pareil pour les équipements professionnels pour traiter des données personnelles, les plus jeunes sont encore au sommet de l'usage, 45% contre 38 ou 32% pour les plus âgés. Donc c'est une pratique qui est effectivement liée à la jeunesse.
Un des points intéressants de cette étude, c'est que ce sont les mêmes questions qui sont reposées au fil des ans. Alors, en conclusion, globalement, est-ce qu'on a progressé ou pas?
Attends, c'était juste un tout petit aspect de la partie internaute, Joël.
Ah bon, pardon.
Donc, je continue de dérouler le truc rapidement.
Bien essayé, Joël.
Comment ça s'ennuyer. Donc, par exemple... sur les paiements en ligne, rien de surprenant. Les gens payent beaucoup en ligne, mais à certaines conditions. Essentiellement, ils font confiance dans les sites qui présentent une certaine sécurité et aussi beaucoup aux sites qui connaissent. Et malgré toutes les grandes tendances, ils continuent quand même d'utiliser beaucoup leurs ordinateurs plutôt que leur téléphone mobile ou leur tablette pour réaliser des paiements en ligne, 74% contre 34% jusqu'à aujourd'hui. Sur le deuxième aspect, sur la perception de la menace, ils sont assez matures, ils perçoivent assez bien les risques, même avec une perception en hausse de ces risques. Alors c'est toujours un petit peu compliqué d'interpréter cette tendance. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus inquiets ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont une meilleure connaissance? On a quand même vu un petit peu plus loin dans leur façon d'appréhender les choses, c'est que 57% s'informent en moyenne, et donc on peut penser qu'une grosse partie de cette hausse de l'appréhension par rapport au risque, notamment sur Internet, est liée à une information qui se développe. Pour ce qui est des précautions de base qu'ils prennent face à ces risques, par exemple sur les réseaux sociaux, on peut noter un verre à moitié vide et à moitié plein, c'est-à-dire que 63% en moyenne sur les réseaux sociaux vérifient régulièrement leur configuration, ce qui est notamment assez prégnant chez les plus jeunes. Et donc, j'estime que c'est plutôt une bonne chose d'avoir autant d'individus qui s'intéressent à la sécurité leurs données personnelles sur les réseaux sociaux. Et pour ce qui est des types d'incidents qu'ils rencontrent sur ces données personnelles, il y en a quand même pas mal qui en rencontrent, hein, puisqu'on parle de 24% encore aujourd'hui qui ont perdu des données au cours des 24 derniers mois, avec une moindre proportion de données perdues dans le cloud, hein, puisqu'on descend à 11%, mais tout ça c'est en diminution. Qu'est-ce qu'ils ressentent comme menaces? C'est essentiellement les menaces qui proviennent d'Internet, à peu près la même chose que ce que vivent les entreprises elles-mêmes, comme on l'a noté tout à l'heure, donc beaucoup les virus, vol d'identité, phishing, etc., sont beaucoup plus craints que des choses liées aux pannes matérielles, au piratage direct de la connexion Wi-Fi, etc. Et donc peut-être beaucoup liées aux choses dont on parle le plus dans la presse ou dans l'actualité des événements en matière de risques cyber pour les internautes. Enfin, si on regarde du côté des pratiques de sécurité, puisque c'est un des aspects importants de cette étude, il n'y a pas de vraie révolution. On peut constater quand même qu'il y a une forte différence qui subsiste entre la sécurisation des appareils fixes ou en tout cas de type ordinateur et les smartphones et tablettes, hein, puisque on a par exemple 88% d'antivirus de pare-feu, etc. sur les ordinateurs et 58% d'antivirus sur les terminaux mobiles, ce qui me semble être beaucoup, mais ce qui est quand même moindre par rapport aux ordinateurs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on en a 43% qui ont des pare-feux sur leurs terminaux mobiles. Je suis pas certain qu'ils aient tous ce genre de choses sur leurs terminaux.
Ils ont peut-être confondu avec leur ordinateur portable.
C'est pas toujours facile d'interpréter tous les résultats, mais sur l'ordinateur fixe, beaucoup de moyens de protection de base sont quand même très très utilisés, hein. Sécurisation de la connexion Wi-Fi par mot de passe au démarrage de l'ordinateur à près de 70%, sauvegarde des données à 67%, ce qui est bien, des dispositifs de protection électrique, mais dès qu'on rentre dans des choses un petit peu plus complexes comme l'usage du chiffrement, là ils ont quand même beaucoup de mal, un système de chiffrement des données, seuls 18% déclarent l'utiliser, et pour les mails seuls 17%, ce qui est même en baisse par rapport aux résultats qu'on avait il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité en quelque sorte, hein. Ce sont des outils qui sont encore difficiles à utiliser pour les internautes ou que beaucoup ne connaissent peut-être pas bien. Si on regarde du côté des approches, hein, des bonnes pratiques de sécurité plutôt que des outils, là c'est intéressant, ils ont quand même assez bien acquis les conseils de base, c'est-à-dire ne pas faire confiance à quelque chose qui est suspect, donc je ne réponds pas à des gens que je ne connais pas sur Internet, je ne vais pas sur des sites web pour lesquels j'ai des doutes, je ne télécharge pas des logiciels, applications sans être certain de leur innocuité, on est à plus de 80%, et il y en a 78% qui déclarent formaliser des mots de passe forts. Alors ça reste à tester, mais c'est quand même quelque chose auquel ils répondent assez largement. Et puis, par exemple, l'utilisation de mots de passe différents pour chaque application, 62%, donc ce qui semble être quand même pas loin d'être vers la généralisation.
Bon,
alors globalement, si on résume pour les internautes, l'impression qui ressort de l'étude, c'est que ils sont globalement en sécurité, mais ils ont quand même des inquiétudes dans l'univers du mobile, et qui comprennent apparemment un certain nombre des grands risques auxquels ils sont confrontés, et ils s'informent quand même pas mal, et c'est notamment les menaces qui proviennent d'Internet qui les préoccupent le plus, virus, hameçonnage, usurpation d'identité, etc. Et tout ce qui est outils de sécurité un petit peu avancés, ils ont encore des difficultés à les mettre en œuvre, hein, on vient d'en parler, que ce soit le chiffrement ou les outils de centralisation de mots de passe. Et on voit, si on regarde dans les tranches d'âge, il y a des fortes variabilités des pratiques en fonction des tranches d'âge. Et donc, il y a certainement, intuitivement, je dirais, des efforts à faire en matière de sensibilisation d'une part, évidemment, et puis aussi en matière d'ergonomie des outils qui sont pas tous adaptés à monsieur et madame tout le monde. Voilà.
Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce sont quasiment les mêmes questions qui sont posées au fil des ans. Donc, globalement, si on prend en considération les trois grands axes, donc entreprise, collectivité et particulier, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a stagné? Quid de l'évolution?
Globalement, on est dans une stagnation, très clairement.
Pour les entreprises, hein.
Alors, pour les entreprises, pour les collectivités territoriales.
Et on a vu que pour les particuliers, la nouvelle génération était de moins en moins bête.
Tout à fait.
Alors, et de plus en plus informée, ouais.
Ouais, effectivement, il faut peut-être mettre les entreprises, les cotaires d'un côté et les particuliers de l'autre. Mais sur les entreprises et les cotaires, les collectivités territoriales, on est vraiment dans une vision plutôt de stagnation, avec quelques petits points positifs qui font tranquillement avancer quelques éléments. Voilà, ça stagne. On continue à aborder beaucoup la sécurité par les aspects techniques. Et le parent pauvre un peu de la sécurité, c'est l'organisationnel, c'est la stratégie. Un RSSI, ça devrait faire de la stratégie, ça n'en fait pas suffisamment. Il y en a qui en font, hein. Là encore une fois, quand on regarde les plus grandes structures, on va plutôt avoir des RSSI un peu stratèges, et dans les plus petites, on va plutôt avoir des RSSI qui ont les mains dans le cambouis, si je puis dire.
Bon, eh bien, on peut également signaler que cette étude est disponible sur le site du Clusif, donc www.clusif.fr.
Et puis, c'est quand même une étude absolument unique et extraordinaire. Donc, il faut saluer quand même cette extraordinaire initiative d'une association en France pour nous permettre d'avoir une véritable étude sérieuse, complète, avec des chiffres. Parce que finalement, ça dit des choses qui ne correspondent pas toujours à ce que les consultants ou les éditeurs, et je m'inclus bien sûr dans cette liste, hein, pensent. Et donc, ça repositionne la réalité. C'est vraiment important qu'il y ait une initiative associative et indépendante pour nous donner des chiffres absolument uniques sur le marché français.
Et d'ailleurs, on a noté pendant la présentation un certain nombre de commentaires sur les questions qui étaient posées et certaines qui manquent peut-être. Et donc, Lionel l'a bien dit, elles seront prises en compte, ces commentaires seront pris en compte dans 2 ans pour la nouvelle étude. Et puis on est avide de commentaires s'il y a des gens qui, en lisant le document, ont des questions, etc., qu'ils n'hésitent pas à faire remonter au Clusif. On est à l'écoute de tout ça.
Alors justement, est-ce qu'il y a une adresse pour ce genre de remarques?
L'adresse de contact classique du Clusif, Lionel.
Voilà, ouais, tout à fait. Hein. Sur le site du Clusif, on va retrouver le contact classique du Clusif qui va être secrétariat@clusif.fr. Et qui fera suivre à la bonne personne en fonction de la thématique. Si je puis dire, on assure effectivement une forme de service après-vente. S'il y a des gens qui identifient des manques, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire, qu'ils n'hésitent pas non plus à faire partie du prochain groupe de travail qu'on va redémarrer entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine pour une publication de la prochaine étude en juin 2018. Voilà, donc on a encore un petit peu de temps, mais on va s'y remettre assez rapidement.
Et on est bien conscient que c'est des questions qui sont posées à des gens, soit par téléphone, soit par internet pour la partie internaute. C'est pas des choses qui sont vérifiées, et donc il faut pas prendre ces chiffres-là comme une vérité absolue, mais comme des bons indicateurs, des tendances
Ah, mais mon beau monsieur, là, vous mettez en cause les sondages.
C'est un
sondage, en fait.
Oui, c'est un sondage. Mais justement, c'est intéressant en voyant les évolutions. T'as des évolutions qu'on n'est pas capable d'expliquer, d'autres qui sont liées au changement, aux petites adaptations qu'on fait aux questions, etc. Donc, on le voit bien. En tout cas, c'est une matière très intéressante à analyser. S'il y a des gens qui sont membres du Clusif dans la communauté de la sécurité qui ont envie de rejoindre l'équipe, je pense que Lionel sera très fanat d'avoir des gens en plus dans l'équipe dans un an et demi. N'est-ce pas, Lionel?
Il y a aucun doute. Ils et elles sont les bienvenus, sans problème.
Bon, eh bien, Lionel, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. C'était un plaisir de participer à ce podcast.
Un plaisir partagé. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bye.